Alors, si vous voulez tourner avec moi, on va aller dans Genèse, chapitre 30, versets 25 à 43. Alors, si vous voulez vous lever, on va lire la parole de Dieu. C'est un signe qu'on a un grand respect envers la parole. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, « Laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi et je m'en irai. » car tu sais quel service j'ai fait pour toi. » Laban lui dit, « Puissé-je trouver grâce à tes yeux, je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. » Jacob lui dit, « Tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi, car le peu que tu avais avant moi s'est beaucoup accru et l'Éternel t'a béni sur mes pas. « Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? » Laban dit, « Que te donnerai-je? » Et Jacob répondit, « Tu ne me donneras rien. Si tu consens à ce que je vais te dire, je vais paître encore ton troupeau et je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part parmi les brebis, tout agneau tacheté et marqueté et tout agneau noir, et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté est acheté. Ce sera mon salaire. Ma droiture répondra pour moi demain quand tu viendras voir mon salaire. Tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. » Laban dit, « Eh bien, qu'il en soit selon ta parole. » Ce même jour, il mit à part les boucs rayés et marquetés, toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc, et tout ce qui était noir parmi les brebis. Il les remit entre les mains de ses fils. Puis il mit l'espace de 3 journées de chemin entre lui et Jacob fit paître le reste du troupeau de Laban. Jacob prit des branches vertes de peupliers, d'amandiers et de platanes. Il y pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrassent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches, et elles faisaient des petits rayés, tachetés et marquetés. Jacob séparait les agneaux, et il mettait ensemble ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Il se fit aussi des troupeaux à part, qu'il ne réunit point au troupeau de Laban. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges, sous les yeux des brebis, pour qu'elles entrassent en chaleur près des branches. Quand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait point, de sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Cet homme devint de plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Alors, si vous voulez vous asseoir. Alors, le sermon du passage qu'on va étudier aujourd'hui, je l'ai intitulé simplement, le titre je l'ai donné, « L'Éternel prépare le départ de Jacob ». On va voir que le texte, on peut le diviser en 3 parties. L'heure du départ qui est proposée, Dieu travaille en sorte qu'il aligne les circonstances pour que l'heure du départ est en train de se préparer pour qu'il puisse éventuellement quitter son beau-père. Et l'autre, donc ça c'est le verset 25 à 28. Verset 29 à 36, on a l'heure du départ qui est planifiée. On voit qu'il y a une certaine planification dans toute cette histoire là, de séparer les brebis, de moi mon salaire, et on va regarder ça un petit peu plus en détail. Et l'heure du départ est préparée, versets 37 à 43. Si on veut apprécier le passage qu'on est en train d'étudier aujourd'hui, il faut absolument se rappeler qu'est-ce que Dieu avait dit dans les... Quand, vous vous souvenez du passage quand il avait quitté son pays, et là, il y avait eu le fameux passage de l'échelle, qui l'avait beaucoup encouragé. Il avait vu une échelle, des gens qui montent... Et le passage de l'échelle... Dieu lui avait fait une promesse. Et si on ne regarde pas le passage d'aujourd'hui en fonction de la promesse que Dieu avait donnée, à quelque part, on manque le bateau parce que c'est très important, parce qu'on voit la réalisation, l'accomplissement de la promesse de Dieu dans la vie de Jacob. On la voit, elle se fait graduellement. Alors, si on veut vraiment se souvenir, il faut retourner un petit peu dans Genèse 28, les versets 13 à 15, où il y avait le passage de l'échelle, où Dieu avait fait des promesses. Et chaque fois que Dieu fait une promesse, parfois on est porté à oublier qu'un peu plus tard, ou beaucoup plus tard, il va accomplir ce qu'il a promis. Alors, si on se rappelle de ce qu'il a promis, on va regarder aujourd'hui et on va voir que Dieu est en train d'amener un certain accomplissement dans la promesse qu'il a faite à Jacob. Alors, on regarde Genèse 28, versets 13 à 15. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et bien entendu, si on parle de l'échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, c'est l'Éternel qui parle, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Et ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu te répandras à l'Occident et à l'Orient, au Nord et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Et voici, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai en ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai fait tout ce que je t'ai dit. » Bon. Maintenant, dans le texte, il y a le mot « postérité ». À quoi ça fait référence? Est-ce que ça fait référence aux enfants qui étaient pour avoir, ou si ça fait référence à quelqu'un d'autre? Et la réponse, on l'a dans Galates 3:16. Très important de saisir ça, parce que si on ne saisit pas ça, là, on a un gros morceau qu'on ne comprend pas dans le passage. Galates 3:16, ça dit, « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa semence. Il n'est pas dit « et aux semences » au pluriel, comme s'il avait parlé de plusieurs, mais comme parlant d'une seule à sa semence, qui est Christ. Donc, la promesse que Dieu a faite à Abraham, il le faisait à ceux qui étaient en Christ. Donc, la postérité, c'est non seulement ses enfants, mais c'est la personne de Christ surtout. Si on comprend ça, là, quelque part, là, on a compris un grand bout. Parce que les Écritures elles-mêmes s'interprètent. Galates 3:16 interprète à qui Dieu a fait les promesses. Alors, les promesses de l'Alliance avaient été répétées et ratifié dans les versets 13 et 14. Donc, il avait dit qu'il lui donnerait une terre, un pays. Donc, à quelque part, éventuellement, pour que la promesse s'accomplisse, il fallait que Dieu donne un pays aux Juifs, à la descendance dans laquelle le Messie viendrait. Et ça dit, dans le verset 13, « La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. » Après ça, on voit que le Seigneur lui dit, dans le verset 14, qu'il va avoir une postérité nombreuse. Donc, à quelque part, le peuple juif, après sa sortie d'Exode, ont multiplié beaucoup. Donc, sa postérité, c'était ses enfants et les enfants de ses enfants, mais c'était aussi, surtout, la venue future du Messie, la personne même de Jésus-Christ. Donc, une postérité nombreuse, non seulement il y avait tous les Juifs qui sont venus par sa descendance, par les 12 tribus d'Israël, on se souvient des noms l'autre semaine avant, deux semaines. Donc, la postérité nombreuse, non seulement c'était ses enfants et tout le peuple juif qui est venu après, mais c'était aussi tous les chrétiens de tous les temps qui sont en Jésus-Christ. Sa postérité extrêmement nombreuse. Et il parle de la semence, dépendamment des versions, ça peut être 10 postérités, ça peut être 10 semences, mais le mot la semence, je trouve que c'est la plus précise par rapport au sens du texte. La semence, ça le dit dans Galates 3:16, c'est la personne de Jésus-Christ. Il dit, et ta postérité, et ta semence, sera comme la poussière de la terre. Et c'est beaucoup, cela, là. Si vous essayez de ramasser de la poussière à terre ou du sable, vous essayez de compter comment il y en a des grains, vous allez voir qu'il y en a beaucoup. Alors, Dieu est en train de dire que la postérité qui va être en Jésus-Christ, elle va être extrêmement nombreuse. Alors, les promesses ici, dans trois versets, Genèse 28, 13 à 15, Dieu faisait des promesses énormes. À Jacob. Je ne sais pas si Jacob comprenait vraiment qu'est-ce que Dieu lui promettait. Probablement très partiellement. Alors, les promesses, une postérité nombreuse, et il lui promettait aussi la semence qui était la personne de Jésus-Christ. C'était loin, là, entre Jacob et l'accomplissement que Jésus arrive. Mais tous ceux qui ont été sauvés avant la venue de Jésus étaient quand même en Jésus, dans la semence. Tu croyais au Messie à venir ou nous, on croit au Messie venu. C'est la seule différence qu'il y a entre ceux qui sont venus au Seigneur dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau. Dans l'Ancien, ils croyaient au Messie à venir. Nous, on croit au Messie venu parce qu'il est venu. Et ça fait 2000 ans qu'il est venu. Alors, Dieu a fait aussi des promesses. Donc, des promesses qui étaient plus des promesses qu'on pourrait dire, des promesses de l'Alliance, parce qu'il fait il lui rappelle que ces promesses-là avaient été faites à Abraham, son père. Son grand-père, c'est-à-dire Isaac, Jacob. Alors, les promesses aussi, il lui fait seulement, non seulement des promesses qui concernent l'Alliance que Dieu avait fait avec Abraham, mais il lui fait aussi des promesses personnelles. Et c'est ça qu'on va regarder dans le verset 15. Dans le verset 15, il dit, « Et voici, il y a cinq choses qui sont dites, là. » Mais quand on lit lentement, on ne prend pas vraiment conscience que Dieu lui a fait cinq promesses qui sont strictement personnelles à Jacob lui-même. Alors, ça dit, « Et voici, je suis avec toi. » Ça parle de quoi, ça? « Je suis avec toi. » La présence divine. Et ensuite, il dit, « Et je te garderai partout où tu iras. » Ça parle de quoi, ça? La protection divine. Alors, il dit, je te garderai partout où tu iras. Et la troisième chose qu'il lui promet, je te ramènerai dans ce pays. Autrement dit, ça, il avait quitté, il avait peur de l'autre, son frère, d'Ésaü. Mais là, le Seigneur, il a dit, éventuellement, je vais te ramener dans ton pays. Et là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que Dieu est en train de préparer le départ. C'est pour ça que j'ai appelé ça « L'Éternel prépare l'heure du départ ». Il le prépare. On va voir dans la suite du chapitre que Dieu est en train d'accomplir ce qu'il lui a promis. Donc, ici, il dit « Quand je te ramènerai dans son pays », le Seigneur lui promet quoi? La direction divine. Quatrième chose, il dit « Je ne t'abandonnerai point ». La soutenance divine. Dieu va te soutenir durant tout ton voyage. Et la cinquième chose, la fidélité divine, il dit que je n'ai fait tout ce que je t'ai dit. Autrement dit, Dieu ne parle pas à travers son chapeau comme les hommes. On dit des fois, même si on regarde notre vie, on a fait ce qu'on appelle des promesses d'ivrogne, on fait des promesses puis ça ne se réalise pas. Avec Dieu, ça n'arrive jamais ça. Quand Dieu promet quelque chose, c'est sûr que ça arrive tel qu'il le dit. Ici, il promet cinq choses. Mais si vous regardez le développement de la Bible en termes de ces cinq promesses-là, vous allez voir que oui, Dieu était avec lui, parce qu'à partir du moment de l'échelle, il arrêtait d'avoir peur. Donc, il sentait que Dieu était avec lui. Ensuite, la protection. Dieu l'a gardé durant tout son voyage. Et là, on est rendu à la direction. Dieu est en train de préparer les circonstances pour le sortir du pays et le ramener dans son pays tel qu'il l'a promis. C'est quand on saisit ça, puis on remet ça en perspective avec avec Genèse 28, là on voit jusqu'à quel point c'est beau la parole de Dieu. Parce que des fois, quand on lit trop rapidement, puis quand on sort le verset hors de son contexte, parce que Genèse, c'est une histoire qu'on devrait la lire d'une shot, comme on dit. Mais on la lit rarement un livre d'une shot, c'est rare qu'on fait ça. Mais c'est une bonne chose de lire un livre d'un coup, tu sais, du premier verset au dernier verset, parce qu'on a l'idée de l'ensemble de la chose qui se passe. Et si quelqu'un lit le passage d'aujourd'hui et qu'il se souvient ce que Dieu dit, il va la voir, la présence divine. Il va la voir, la protection divine. Il va la voir, la direction divine. Il va la voir, la soutenance divine. Et il va la voir, la fidélité divine, par tout ce que Dieu a promis à Jacob personnellement, s'accomplit à la perfection. On peut voir ça juste dans l'histoire de Jacob, mais on peut faire un lien aussi avec notre propre vie. Pensez-vous que notre Seigneur, depuis qu'il nous a sauvés, qu'il n'a pas été présent avec nous tout le temps? On ne le sent pas tout le temps, mais ce n'est pas parce qu'on ne le sent pas qu'il n'est pas là. Dieu est toujours là. Des fois, on l'oublie souvent qu'il est là. Parce que si on ne l'oubliait pas, là, il y a bien des fois que notre comportement changerait. Supposons qu'on est en train de faire quoi que ce soit dans la vie. Là. Si on était conscient, pleinement conscient, que Dieu est présent dans ta vie à tout moment de la journée, pensez-vous que notre comportement changerait? Et mon doudou, moi je sais que dans mon cas, il changerait beaucoup, parce qu'on n'est pas à la hauteur, mais c'est parce qu'on l'oublie qu'il est présent. Mais ce n'est pas parce qu'on l'oublie qu'il n'est pas présent. Et la même chose pour la protection. Dieu nous a accordé de la protection maintes fois au cours de notre vie. Notre problème, c'est qu'on ne l'a pas vu, ou très peu vu. Après ça, la même chose pour la direction. Dieu dirige nos vies. Les cinq promesses, là, oui, s'adressaient à Jacob, mais on peut se les appliquer à nous aussi, dans notre vie. Donc, lors du départ, alors plusieurs des promesses divines ont déjà été accomplies dans les cinq choses qu'on a mentionnées, mais il y en a d'autres qui s'apprêtent à le devenir, à s'accomplir. Donc, c'est ça. La première chose qu'on va regarder, c'est le premier point, lors du départ est proposé, dans le verset 25 à 28. Dieu choisit toujours le moment où c'est le temps pour son serviteur de le sortir de là, parce que on sait que Laban était un petit ratoureux. Il a changé son salaire 10 fois. Il était malhonnête un petit peu, son beau-père. Mais il faut se souvenir pourquoi Dieu a permis qu'il rencontre chaussure à son pied. Parce qu'il était lui-même, Jacob, un peu ratoureux avec son père, avec l'affaire d'Ésaü. Dieu voulait le corriger et lui a fait rencontrer une personne qui était vraiment capable de lui montrer qu'il n'est pas tout seul qui est capable, il n'est pas tout seul de manipulateur, il n'en est plus. Il y a toujours une chaussure à ton pied. Alors le Seigneur il a permis qu'il rencontre une chaussure à son pied. Et Dieu choisit son moment. Remarquez, quand il a choisi, Dieu permet que Jacob dise à son beau-père, « Je t'ai servi pour mes deux femmes, j'ai fait mon travail, je l'ai fait consciencieusement. Maintenant, il est temps que je m'en aille. Il est temps que je travaille pour moi. » Parce qu'il se rendait compte que personnellement, il n'avait pas ramassé grand-chose. Dans le verset 25, ça dit, « Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, « Laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. » C'est bizarre, pourquoi? C'est quand sa deuxième femme, celle qu'il aimait, a eu un fils, que lui a cru que c'était la réponse de Dieu, que probablement que le Messie viendrait par la lignée de Joseph. Mais on sait que c'est pas ça, hein? Par quelle lignée il est venu? La première femme, Léa, et c'était son quatrième fils, qui était Judas, qui veut dire louange. Alors Dieu, mais lui, dans sa tête à lui, devait penser, parce que le Seigneur m'a donné un fils par la femme que j'aimais, il est maintenant temps que je parte et que je m'en aille dans mon pays. Alors, dans sa tête à lui, ça se réglait comme ça. Alors, les circonstances semblent alignées divinement par l'Éternel, qui sonne, on peut dire en quelque sorte, l'heure du départ. Premièrement, la naissance de Joseph, mais aussi l'honnêteté. Il lui rappelle que les ententes qu'il y avait eues entre lui et son beau-père, « Tu as voulu que je serve 7 ans pour Rachel, il était trompé, il lui a donné Léa, 7 ans pour l'autre, ça faisait 14 ans. » Alors le Seigneur a voulu que là, il se produise de quoi pour qu'il commence à travailler pour lui-même. Ceux qui sont dans le domaine de l'agriculture, ils vont comprendre ça. Alors, il dit dans le verset 26, il veut rappeler à son beau-père les ententes qu'on a eues entre moi et toi. Je les ai accomplies de façon honnête. Il dit, donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi et que je m'en aille, car tu sais le service que j'ai fait pour toi. » Autrement dit, tu es en train de lui dire, j'ai tenu ma part du marché. J'ai fait ce qu'on était censé de faire. Alors, il a respecté ses engagements et il a été fidèle de façon scrupuleuse envers son beau-père. Il ne l'a jamais trompé, il n'a jamais volé de brebis, il a été un modèle envers lui. Alors, son service envers Laban a été entièrement honnête en termes de qualité, en termes de ferveur et en termes de zèle. Jacob n'a jamais mangé le pain de la paresse et du relâchement. Il s'occupait du troupeau de son beau-père comme si ça avait été à lui personnellement. Et dans le verset 27 et 28, on va voir que Laban lui-même, qui était, on pourrait dire, un païen, était pleinement conscient que le développement du troupeau avait été permis par Dieu lui-même. Bizarre pareil, hein? Les païens se rendent compte que quand Dieu bénit un de ses enfants, ils s'en rendent compte. Quand même spécial quand on regarde ça. Hein? Genèse 30, versets 27 et 28. « Et Laban lui répondit, puis-je avoir trouvé grâce à tes yeux, car j'ai deviné que l'Éternel m'a béni à cause de toi. » Il prend conscience que si l'Éternel a permis que ses troupeaux augmentent, qu'ils s'enrichissent, tout ça, il se rend compte que c'est parce que Dieu l'a permis. Parce qu'il dit, « J'ai deviné que l'Éternel m'a béni à cause de toi. » Et dans le verset 28, « Puis il dit, « Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. » Là, c'est un peu spécial parce qu'il arrive à la croisée de chemin, il y en a un qui veut s'en aller. L'autre, bien entendu, il l'a eu, ses deux filles, à 14 ans, donc il a donné beaucoup. Là. Si on calculera ça en termes, disons, d'argent, mettons-le, disons, à 40-50 000 par année, 14 ans, ça fait beaucoup d'argent. Alors, Laban était très conscient de la valeur du travail de Jacob et il donne du crédit à l'affirmation de Jacob de lui avoir donné un service impeccable. Il le reconnaît. Il saisit que Dieu l'a béni à cause de Jacob et Laban est conciliant et semble vouloir se plier à sa demande. Mais vous allez voir que Laban n'a pas changé. Il est encore plus ratoureux qu'il l'était avec les femmes quand il a passé la deuxième femme pour la première, en tout cas. Alors, versets 29 à 31, et là, il lui dit, il répondit, « Tu sais comment je t'ai servi, ce qui est devenu ton bétail avec moi, ce que tu avais avant moi était peu de choses, mais depuis, c'est fort accru, et l'Éternel t'a béni depuis que j'ai mis les pieds chez toi, et maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? » Il se rend compte, « OK, j'ai mes femmes, j'ai mes enfants, mais je suis un tout nu, j'ai rien. » Alors il dit, et Laban lui dit, « Que te donnerai-je? » Jacob répondit, « Tu ne me donneras rien. » Voyez-vous, on voit que Jacob a commencé à comprendre quelle sorte de caractère son beau-père avait. Un drôle de numéro. Fait que là, il est prudent dans sa façon de présenter à son beau-père ce qu'il veut comme son salaire. Il est très lucide. Il lui dit, « Tu ne me donneras rien. Je paîtrai encore tes troupeaux et je les garderai si tu fais ceci pour moi. » Il est très lucide. Il est lucide de la valeur de son travail. Il est lucide de la bénédiction que l'Éternel a fait pour lui. Il est lucide maintenant aussi de la nécessité de bâtir sa maison pour bâtir sa propre maison. Mais beau de dire, « Je m'en vais, là, mais tu n'as rien. » Alors là, il voulait avoir quelque chose pour lui. Et il comprend la nécessité qu'il est devant un homme fourbe et malhonnête. Quand tu, comme en québécois on dit « dealer », quand on deal avec un croche, on est prudent, hein? On fait attention à ce qu'on dit, parce qu'il était conscient que son beau-père était un petit peu tendance à la crocherie. Et il établit lui-même ses conditions de manière à ce que, quand ça va se réaliser, il n'y aura pas d'obstination possible. Son beau-père ne pourra pas dire, comme ça dit un petit peu plus loin dans le texte, il dit, « Tu vas changer 10 fois mon salaire. » Alors, son beau-père avait tendance à jouer avec les mots. Puis là, il a dit, « Cette fois-ci, là, tu ne joueras pas avec les mots. » Alors, ce qu'il a dit, « Prends ton troupeau Il dit, sors toutes les bêtes qui sont noires, tachetées, autrement dit, toutes celles qui avaient l'air, qui n'étaient pas des blanches. Puis il dit, sors-là de ton troupeau, puis amène. Lui, il a décidé de prendre son troupeau et de l'emmener au loin. Pour pas qu'il y ait des brebis qui soient de cette couleur-là que lui demandait. Lui, il vous dit, donne-moi les brebis qui sont achetées, les marquetées. Les... Alors, il dit, dans le verset 32, il lui établit des conditions claires. « Je passerai aujourd'hui parmi tous tes troupeaux. Au disant, toute bête picotée est achetée, et toute bête noire parmi les agneaux, et ce qui est acheté et picoté parmi les chèvres, et ce sera mon salaire. » Et ma justice me rendra témoignage à l'avenir, quand devant toi, quand tu viendras reconnaître mon salaire, tout ce qui ne sera point picoté ou tacheté parmi les chèvres et les noirs parmi les agneaux aura été volé, s'il en est trouvé chez moi. Jacob est clair avec son beau-père. Il veut un contrat qui démontre sa foi en l'Éternel plus qu'en son beau-père. Deuxièmement, il veut un contrat qui va le tenir à l'abri des malentendus et des soupçons. Et troisièmement, il veut un contrat qui est à toute épreuve. Et là, on va voir comment notre ami Laban est spécial. Versets 34 à 36, et Laban dit, « Eh bien, qu'il en soit comme tu dis. » Parce que là, Laban, il pensait, il vient de faire une méchante bargain, là. Je vois tout emmener brebis au loin. Puis il n'aura pas pantoute, il ne sera pas capable. Autrement dit, il avait encore l'idée de l'exploiter. Et le même jour, voyez-vous ce qu'il fait? Le jour même, il sépara les boucs rayés et tachetés, et toutes les chèvres picotées et tachetées, tout ce qui avait du blanc, et tout ce qui était noir parmi les agneaux, et il les confia à son fils. Et il mit l'espace de 3 jours de chemin entre lui et Jacob, et Jacob paissait le reste des troupeaux de Laban. Autrement dit, ils ont tout enlevé. Puis là, il a vu qu'il y avait juste des blanches. Il s'est dit, il ne pourra pas avoir des picotés et des tachetés s'il n'y a pas de blanches à travers le troupeau. Mm-hmm. Voyez-vous sa façon de voir les choses? Mm-hmm. Je vais les enlever, toutes les picotées, toutes les tachetées. Mm-hmm. Je vais les mettre à 3 jours de marche. Puis je vais lui donner juste des blanches. Il ne pourra pas avoir des picotés et des tachetés que ça. Il se pense à faim, lui-là. Là. Il se pense à faim. La proposition de Jacob est allègrement acceptée par Laban, car il a son idée en arrière de la tête. Je vais les enlever toutes. Il ne sera pas capable d'en avoir. Il va être obligé de me servir le restant de ses jours. C'est à peu près ça qu'il avait dû avoir comme raisonnement dans sa tête. Alors, il continue de manifester son esprit d'avarice et d'exploitation. Mais on va voir que Dieu va mettre sa main à l'intérieur de tout ça. Laban, il est méprisant envers Jacob. Il a dû se dire, ça prend-tu un innocent pour se dire, prendre un marché comme ça? Mm-hmm. Tu sais, dans sa tête, il n'a pas dit, mais il a dû se dire, ça prend-tu un innocent pour faire une affaire pareille? J'ai juste à les enlever, les brebis tachetées, les noirs. Puis si je les mets à 3 jours d'or, puis je lui donne juste des blanches, qu'est-ce qu'il va avoir comme brebis? Toutes des blanches. Puis l'autre, il a demandé, il dit, mon salaire, ça va être les brebis tachetées, puis noires. Mm-hmm. Hey, brillant, M. Laban. Alors, l'heure, verset 37 à 43, c'est l'heure du départ qui est préparée. Alors, habilement. On voit que Jacob prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de platane, et il fit des raies blanches en découvrant le blanc qui était aux branches. Il mit les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs où les brebis venaient boire, en face des brebis, et elles entraient en chaleur quand elles venaient boire. Les brebis entraient donc en chaleur à la vue des branches, et elles faisaient des agneaux rayés, picotés et tachetés. Voyez-vous, lui, là, il s'est dit, en prenant des branches et en faisant des raies dessus, ça faisait rentrer les femelles en chaleur. Mais lui, ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il ne connaissait pas les lois de la reproduction. Mais un peu plus tard, on va apprendre dans le texte que c'est Dieu qui permettait que les brebis sortent de la couleur que lui avait pris. Mais lui, il pense, Jacob, il pense que c'est parce qu'il est wise. Je vais faire ça, puis là, les brebis, ils vont être comme je veux. Et ça faisait rentrer les brebis en chaleur. Et les brebis donnaient des noirs, des picotés, des tachetés. Mais lui, il pensait que c'est parce qu'il était brillant qu'il faisait ça. Et on va voir plus tard que Dieu va lui montrer de façon très claire, il va même lui affirmer, si tu as eu des noirs, si tu as eu des picotés, si tu as eu des achetés, c'est parce que c'est moi qui l'ai permis. C'est là qu'on voit des fois nos petits marchés, nos petites bargains qu'on pense, on se pense intelligent. Puis dans le fond, c'est Dieu qui en arrière mène sa main souveraine, qui dirige tout. Alors, bien entendu, Jacob va utiliser les connaissances qu'il a apprises par l'observation des troupeaux. Il avait probablement dû penser qu'en mettant des branches comme ça, les brebis venaient en chaleur, puis il était pour avoir plus d'enfants, puis de bébés. Alors, il croit à son habileté. Il n'est pas encore conscient que c'est la providence de Dieu qui permet que les brebis soient de la couleur que lui a pris en arrangement avec son beau-père. Vous, Genèse, verset 31, pour vous, on va un petit peu plus loin. Là, aujourd'hui, on est dans 30, mais dans le verset 31, dans le chapitre 31, on va apprendre quelque chose de très important par rapport à ça. Genèse 31, verset 9 à 13. « Dieu a donc pris le troupeau de votre père et me l'a donné. » On dirait qu'il vient de prendre conscience que c'est Dieu qui a permis ça. Verset 10, « Car il arriva au temps où les brebis entrent en chaleur, que je levai les yeux et vis en songe que les béliers qui couvraient les brebis étaient rayés, picotés et marquetés. » Dieu a permis, dans un songe, qu'ils prennent conscience que c'est vraiment pas son petit tour de fin qui a fait qu'il y a eu des brebis comme il voulait. Dieu est en train de lui dire, c'est parce que j'ai permis. Et dans le verset 11, « Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob, et je répondis, me voici. » Et il dit, verset 12, « Lève les yeux et regarde. » Tous les béliers qui couvrent les brebis sont rayés, picotés et marchetés, car j'ai vu ce que tu as fait là-bas. Dieu est en train de lui dire, normalement, là, le résultat de la fourberie de ton beau-père, là, ça aurait eu que tu n'aurais jamais eu de brebis noires picotées et marchetées. Mais à cause que j'interviens, il permet qu'il voit en songe que c'est à cause de Dieu que ça a tourné comme ça. Et devant le verset 13, il dit, « Je suis le Dieu du Bethel, où tu oignis un monument, où tu me fis un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta parenté. » Alors ça, c'est un petit peu plus loin. Genèse 32, verset 9 et 10. « Puis Jacob dit, « Dieu de mon père Abraham et Dieu de mon père Isaac, éternel, qui m'a dit, « Retourne dans ton pays et vers ta parenté et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les faveurs et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé le Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme deux camps. » Autrement dit, tu es en train de dire à Dieu, « Quand je suis arrivé, tu as tout nu, puis là, je suis riche à craquer. » Parce que là, le reste de l'histoire va démontrer qu'il va avoir un troupeau tellement grand que son beau-père va finir par être jaloux, et il va avoir de la chicane familiale. Alors, versets 40 à 42, Jacob partageait les agneaux et mettait les brebis du troupeau de Laban en face de ce qui était rayé, de tout ce qui était noir. Il mit ses troupeaux à part et ne les mit point auprès des troupeaux de Laban. Et il arrivait que toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob mettait les branches sous les yeux du troupeau dans les auges afin qu'elles entrassent en chaleur auprès des branches. Mais quand les brebis étaient chétives, il ne les mettait point en sorte que les agneaux étaient chétis pour Laban, et les vigoureux pour Jacob. Qu'est-ce qu'on apprend là-dedans? C'est qu'on apprend que Jacob essayait, lui aussi, de régler la situation par sa supposée observation, par sa supposée connaissance, par sa supposée intelligence. Mais le texte nous montre plus loin, dans le chapitre 31, que c'est Dieu qui travaillait en arrière. C'est Dieu qui permettait qu'il y ait des brebis noires tachetées et picotées. Alors, verset 43, « Et cet homme, parlant de Jacob, devint extrêmement riche. » Quand on dit de quelqu'un que tu es extrêmement riche, ça veut dire que tu es riche. « Et il eut de nombreux troupeaux, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des anges. » Donc, Dieu a permis que durant tout cet arrangement-là qu'il a pris avec son père, que sa fortune n'arrête pas d'augmenter. Au point où Laban est venu jaloux, ses fils ont dit, « Il est en train de tout nous voler notre bien, Non, il ne vola rien du tout. Il respectait ce qu'il avait dit. Je vais prendre uniquement les picotés, les noirs et les tachetés. Mais là, il est venu un temps que Dieu permettait que toutes les brebis qui sortaient, c'était toutes des brebis noires, tachetées et picotées. Alors, il y avait une richesse qui était croissante, une richesse qui était diversifiée. Quand on regarde les... Dans ce temps-là, la richesse, ça se mesurait en termes de nombre d'animaux que tu avais. Et aussi en termes de serviteurs et de servantes. Quand quelqu'un était assez riche pour avoir un serviteur et une servante, moi, je ne suis pas assez riche pour avoir un serviteur et une servante. Mais à cette époque-là, quand tu te mettais à avoir des serviteurs et des servantes et que tu avais énormément d'animaux, Dieu, c'était la façon dont Dieu te montrait que tu avais. Alors, il y a une richesse qui a acquise, bien entendu, plus tu as de serviteurs, plus tu as de servantes, plus ça va être facile de faire augmenter ton troupeau parce que tu as des gens pour t'aider. Alors, à partir de ce qu'on a regardé aujourd'hui, je voudrais faire deux applications. Autrement dit, si on lit le texte aujourd'hui, puis qu'on ne retient rien pour notre compréhension, puis pour changer des choses dans nos propres vies, ça, c'est le danger d'écouter des sermons. On peut écouter une multitude de sermons, et ça fait, ça rentre par là, ça sort par là. C'est pas supposé. C'est supposé que ça rentre par là, ça reste là, puis ça change quelque chose en nous. Alors, si le texte qu'on a étudié aujourd'hui nous fait pas prendre conscience de certains principes, de certaines leçons que le Seigneur veut qu'on apprenne, on manque le bateau, hein, n'est-ce pas? Alors, quelles sont les leçons importantes que le Seigneur veut qu'on retienne de l'étude de notre passage d'aujourd'hui? Premièrement, il y a deux leçons. Une par rapport à Dieu, une par rapport aux hommes. On va commencer par celle par rapport à Dieu. Alors, on va apprendre dans notre leçon d'aujourd'hui que Dieu accomplit toujours ses promesses. Il avait promis des bénédictions, de la présence, de la protection, de la direction, de la soutenance et de la fidélité. Et pensez-vous que ces choses-là n'arrivent pas dans nos propres vies? Il faut prendre conscience que quand Dieu fait des promesses, il y en a plein de promesses. On a parlé un moment donné de partir un cartable. Je l'avais déjà montré, un gros cartable. J'avais pris ça sur Internet. Le nombre de promesses que Dieu fait dans les Écritures, il y en a une quantité phénoménale. Puis si je disais, on se lève debout, puis vous m'en nommez trois, bizarre, hein? Dieu fait des promesses. Des fois, on se souvient des promesses des hommes. Bizarre qu'on ne se souvienne pas des promesses de Dieu. Laisse ça à votre heure. Deuxièmement, par rapport à Dieu, Dieu nous montre qu'il nous accompagne discrètement, mais souverainement. Autrement dit, durant toute cette période-là où son beau-père pensait d'y jouer des tours, où lui pensait qu'il jouait des tours à son beau-père, Dieu accompagnait Jacob discrètement. Dieu m'a dit, « Oh, les brebis que tu viens d'avoir là, c'est moi qui ai paru. » Discret. Et durant ce temps-là, sa fortune. Dieu fait la même chose dans nos propres vies. Donc, il accomplit toujours ses promesses et il nous accompagne toujours discrètement, mais souverainement. Deuxième chose qu'on va apprendre par rapport aux hommes. Là, on peut apprendre plusieurs leçons par rapport aux hommes dans ce texte-là. Premièrement, qu'est-ce qu'on apprend des hommes? On apprend qu'ils sont parfois avaricieux, attachés à l'argent, fourbes, des petits croches, comme on dit en québécois, malhonnêtes, durs. Quand tu te rends compte que quelqu'un te fait une offre qui n'a pas de bon sens, tu devrais dire, « Ben voyons, ça n'a pas d'allure ce que tu me dis là. » Mais non, hein, l'exploitation. Leur impitoyabilité. Il a été impitoyable envers. Et l'autre est obligé de se sauver de nuit, si vous vous souvenez bien, là, de tout du reste de l'histoire. Il s'est sauvé avec sa famille, avec ses enfants, avec ses femmes. Il est obligé de le faire durant que l'autre était parti tondre ses brebis, parce que sans ça, la guerre aurait pogné. Ça aurait peut-être mal tourné dans la violence. Et les hommes ont une méfiance qui est maladive. N'est-ce pas qu'on est méfiant envers les autres? Pourquoi on est méfiant envers les autres? Parce qu'on sait qu'ils sont croches. Mais pourquoi on sait qu'ils sont croches? C'est parce qu'on a la tendance à être croches, nous aussi. Alors, c'est ce qui fait qu'on a une tendance de méfiance maladive envers les autres. Deuxième chose par rapport aux hommes, on apprend aussi la valeur de l'expérience et de la connaissance qu'on a acquise patiemment. Son histoire de brebis puis de branches, peut-être qu'il y avait quelque chose de fondé là-dedans. Je ne connais pas assez les brebis pour vous dire s'il y avait, si c'est fondé ou non. Mais il reste que l'observation patiente des choses qu'on fait finissent par rentrer dans notre esprit, que ça peut avoir de l'utilité. Autre chose par rapport aux hommes qu'on apprend, c'est qu'il nous faut toujours mettre Dieu de notre côté dans nos transactions. Au cours de notre vie, on va en avoir des transactions, une quantité phénoménale. Quand on se place devant Dieu et qu'on lui remet la transaction qu'on s'apprête à faire, soit l'achat d'une auto, d'un terrain, d'une maison, n'importe quoi, pensez-vous que Dieu il agit pas là-dedans? Mais il faut pas oublier de le faire, même dans les petites transactions. Que Dieu nous protège, nous empêche de faire des bêtises. Et la dernière, par rapport aux hommes, il nous apprend qu'il nous faut toujours manifester de la prudence et de l'habileté dans nos transactions avec les abuseurs. Les abuseurs connus, parce que lui était rendu, il savait que son beau-père était un croche. Alors, il a joué un jeu de manière à ce que le beau-père ne puisse pas revenir contre lui et dire « Ah, mais là, c'est ça! » Il a joué « safe », comme on dit. Et il a exigé que les conditions qu'il établissait avec son beau-père soient claires et intransigeantes. Tu ne pourras pas dire que j'ai volé. Alors, il avait organisé que ça soit... Alors, faisons confiance à l'Éternel parce que c'est sage de lui faire confiance, c'est habile de lui faire confiance et c'est pour sa gloire qu'on lui fait confiance. Amen.
Amen.